Route diocésaine, 11h, 11h30, un magazine proposé par le service communication du diocèse de Metz.
Christine Martin.
Bonjour et bienvenue à vous dans l'émission Route diocésaine sur RCF Jéricho-Moselle. S'il est une question qui provoque souvent un silence gêné, c'est bien celui de l'homosexualité, surtout quand il s'agit de l'en parler dans un cadre ecclésial. C'est justement pour briser les tabous et les idées reçues et ouvrir le dialogue entre tous que le service diocésain de la pastorale des familles organisait une journée de rencontre sur ce thème avec Yolande Dufayet de la Tour, psychologue.
Route diocésaine sur RCF Jéricho-Moselle.
Yolande Dufayet de la Tour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes intervenue ce samedi 1er février à Metz autour d'une conférence intitulée « Homosexuels, transsexuels et proches, parlons-nous en Église ». Et vous avez commencé votre intervention en définissant, en redéfinissant ce qu'est la sexualité.
Oui, ça me semble important. D'abord, moi, je parle à partir de mon expérience de psy, donc de psychothérapeute, de gestalt-thérapeute. Et donc, forcément, j'ai une manière de concevoir la sexualité qui est probablement beaucoup plus large que de manière un peu automatique un certain nombre de personnes ont. La sexualité est parfois réduite à la génitalité, ce que je fais au lit, pour être un peu
clair.
Or, pour moi, la sexualité, c'est beaucoup plus large. Pourquoi il y a certaines personnes dans certaines autres communautés qui préfèrent le mot homosensible ou homophile pour dire qu'il y a des personnes qui se sentent et se disent homosexuelles sans jamais avoir acté leur génitalité. Donc oui, la sexualité, ce n'est pas seulement des activités de plaisir qui dépendent de l'appareil génital, mais c'est toute une série d'excitations conscientes, inconscientes, qui sont présentes dès l'enfance jusqu'à notre mort et qui procurent effectivement du plaisir, mais ça ne se réduit pas à cette part-là. Et ça va permettre aux personnes d'assouvir un certain nombre de besoins émotionnels, spirituels, psychiques en termes de construction et qui vont se retrouver à des degrés différents et avec des formes différentes selon les personnes.
Et quand on parle d'homosexualité, vous avez fait référence plusieurs fois à une étude menée il y a déjà de nombreuses années, puisque elle est sortie en 1948, et qui nous permet aussi de remettre en cause un certain nombre de représentations, de projections qu'on a sur l'homosexualité.
Oui, alors j'aime bien dire que je n'aime pas parler de l'homosexualité au singulier, mais des homosexualités, parce qu'il y a plein de manières d'être homosexuel, de la même manière qu'il y a plein de manières d'être hétérosexuel. Oui, on a peu d'études, faut être très honnête sur la sexualité. Il y en a deux grandes, une de 48 et une de 91. Une de 48 et, entre 48 et 54, c'est l'étude de Master & Johnson. Et puis en 91, quelque chose qui a été fait en France sur le comportement des Français dans la famille. Et donc, ce que l'on sait, c'est que alors, on a du mal à quantifier, mais en 48, donc il y avait encore du tabou, ça ne se disait pas. On sait à peu près qu'il y a finalement entre 3, 4, 6% de personnes qui sont exclusivement homosexuelles ou exclusivement hétérosexuelles. Et donc, Master et Johnson ont mis en avant plutôt un continuum plutôt qu'une bipolarité hétérosexuelle-homosexuelle. Et donc, de se rendre compte qu'en fait, il y a des degrés pour déterminer ou définir ce qui me définit comme hétérosexuel ou homosexuel. Il y a des personnes homosexuelles qui ont des rêves érotiques hétérosexuels. Alors, elles sont quoi si elles ont des rêves érotiques hétérosexuels? De la même manière, des personnes hétérosexuelles qui ont des rêves ou des fantasmes homosexuels, mais qui ne l'acteront jamais. Donc, l'homosexualité, ça n'est pas que les actes qui définissent l'homosexualité, c'est aussi la perception qu'on a de soi-même. On sait, en tout cas d'un point de vue statistique, en 1948, que 37% des personnes, alors il s'agit des blancs européens, puisque c'est une étude aux États-Unis, ont eu au moins un acte homosexuel, une personne sur trois. En 1948, au moment où c'était encore tabou, peu dissible, donc on peut imaginer que c'est aujourd'hui beaucoup plus important. Donc, est-ce que ces personnes qui sont passées par une expérience plus ou moins longue, plus ou moins singulière, d'homosexualité dans leur hétérosexualité ou d'hétérosexualité dans leur homosexualité, qu'est-ce qu'on dit d'elles?
Une autre idée reçue que l'on a régulièrement, c'est que, qu'on entend régulièrement, c'est que l'homosexualité est un choix. Et c'est de nouveau quelque chose qui est faux.
Oui. Alors, c'est difficile à dire parce que j'ai envie de dire l'homosexualité, il y a une part très mystérieuse et c'est très bien comme ça. D'où ça vient, quelles sont les causes? Il y a des scientifiques qui réfléchissent au sujet, il y a des psychologues qui réfléchissent au sujet, il y a probablement de multiples causes, de multiples facteurs qui font qu'une personne est cette personne homosexuelle-là ou cette personne hétérosexuelle-là. C'est quelque chose qui est assez singulier, qui varie d'une personne à une autre, donc c'est extrêmement difficile de construire des généralités sur le sujet. Est-ce qu'il y a une part génétique ou pas? Moi, je n'ai pas de réponse. Et honnêtement, je ne cherche pas à savoir d'où elle vient, l'homosexualité. En revanche, en tant que clinicienne, qui travaille à la fois avec des personnes homosexuelles ou avec des parents, ce que je constate, et que beaucoup de personnes qui nous écoutent peuvent constater, c'est qu'il y a plus de changements dans un sens que dans l'un autre. C'est-à-dire que moi, dans ma pratique, je connais très, 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 très peu de personnes homosexuelles qui sont soi-disant revenus dans une hétérosexualité. Quand on dit ça, on voit ça, c'est comme si l'homosexualité était un raté de l'hétérosexualité. Il faudrait revenir à quelque chose de normal, de plus acceptable. En revanche, on voit plus de personnes hétérosexuelles qui vont à un moment donné faire un coming out et donc vivre une vie homosexuelle. Donc on peut dire que probablement la culture, le poids du regard de l'autre, de la société, la permissivité ou pas de vivre une vie homosexuelle va faire qu'en fait des personnes homosexuelles, homosensibles, homophiles, si on dit les choses comme ça, vont s'autoriser à acter et vivre émotionnellement, génitalement parlant, sexuellement parlant, une relation homosexuelle, alors qu'elles sont restées pendant très longtemps dans un couple hétérosexuel, elles ont eu des enfants, voilà, c'est aussi possible. Mais elles vont se définir, à un moment donné, comme plutôt homosexuelles, après avoir eu une vie plus ou moins contrainte d'hétérosexuel.
Et vous avez également présenté un schéma assez clairvoyant sur la manière dont se construit l'identité et au sein de cette identité, la part de l'orientation sexuelle.
Alors oui, ça, c'est pas une nouveauté. Tous les psys que nous sommes, c'est tout le processus de construction identitaire. C'est un peu un empilement de différentes strates. Et donc dans ce processus que nous faisons tous, homosexuels et hétérosexuels, j'allais dire, il y a un peu des briques. Et notre orientation sexuelle fait partie psychiquement, émotionnellement, socialement, spirituellement, fait partie de la construction d'un jeu, de moi comme sujet. Et donc, ces briques, elles vont bouger, elles vont prendre de l'importance. Il y a des moments de notre vie, notre orientation sexuelle, dire que je suis homosexuelle ou dire que je suis hétérosexuelle a de l'importance ou pas. Il y a des personnes pour qui il n'y en a pas du tout. Il y en a, bon. Donc, oui, l'orientation, notre sexualité, je reviens à la définition que j'ai donnée au début, nous construit. Et j'allais dire, la sexualité comme la spiritualité sont un peu comme deux, non pas béquilles, mais dans deux axes sur lesquels l'être humain va se construire.
Et donc, vous disiez que l'homosexualité qu'on entend quelquefois comme un choix des personnes à un moment donné de leur vie, en fait, est comme un certain nombre de parties de notre identité, sont des choses qui nous sont données, dont on prend conscience à un moment donné quand on grandit, même comme enfant. Et vous disiez en particulier que souvent, les personnes que vous recevez en consultation font remonter leur premier ressenti sur leur orientation sexuelle à l'enfance, quand ils ont 5-6 ans.
Oui. Alors, c'est pour ça quand on écoute les personnes homosexuelles, moi, je ne veux pas avoir un avis d'expert, j'ai un avis de clinicienne, c'est-à-dire j'écoute ce que les gens ont à me dire, que ce soit dans mon cabinet ou ailleurs. Et effectivement, donc il y a des personnes homosexuelles qui peuvent tout à fait faire remonter la perception qu'ils ont d'être homosexuels à l'âge de 3 à 4 ans. Alors évidemment, à 3 ou 4 ans, on n'a pas le mot homosexualité. On ne dit pas ça, on ne se dit pas comme ça. Il va falloir conceptuellement grandir, avoir des mots, du langage, et que des gens, des adultes posent des mots sur notre expérience pour s'identifier et dire bah, « tiens, je suis homosexuel ». Mais en tout cas, les enfants, quand ils ont 3-4 ans, ils ont l'idée qu'ils ne sont pas comme les autres. Et en fait, ce qui va être touché c'est pas l'orientation sexuelle, c'est pas là-dessus, c'est sur comment ils habitent leur genre, c'est-à-dire eux comme garçons ou eux comme filles, ils sentent bien qu'il y a un truc qui n'est pas pareil. Quand ils regardent les films, ils voient bien que dans leur expérience de regarder une histoire d'amour, même dans les dessins animés, comment c'est pas pareil. J'ai une personne homosexuelle qui me disait comment il avait regardé Pocahontas, c'est-à-dire comment on peut voir je suis différent de ma communauté, c'est-à-dire et on le voit dans la cour de récréation, puisqu'on sait que malheureusement les personnes, les jeunes enfants et ados homosexuels peuvent très vite être ostracisés et que beaucoup font l'expérience de la maltraitance et donc du harcèlement. Or, bien souvent, dans la cour, les parents me disent, ils ont vu leur fils, leur fille un peu ostracisés, un peu mis à l'écart parce qu'eux ne se sentaient pas avec et parce que aussi les autres les désignaient comme étant pas comme les autres, comme étant pas capable de faire partie ou pas acceptable. Et en fait, à ce moment-là, personne à 3, 4, 5, 6, 10 ans dit homosexuel, mais il y a l'expérience du différent. Donc c'est une expérience beaucoup plus large que la génitalité, l'expérience de l'homosexualité.
On évoquait dans les discussions qu'il y avait durant cette journée du 1er février, l'expérience aussi que font les enfants et les ados qui prennent conscience de leurs différences et en particulier de leurs différences d'orientation sexuelle, de la solitude et de l'impossibilité à entrer en relation avec un autre et de discuter de cette construction-là avec d'autres personnes, puisqu'étant isolés dans leur singularité d'identité.
Ouais. Alors oui, s'il y a des spécificités à l'homosexualité, je le dis souvent, c'est l'expérience de la solitude, de la honte, l'expérience de la fragmentation psychique, et qu'il va falloir dépasser. C'est-à-dire qu'un enfant homosexuel, a priori, il a des parents hétérosexuels. Donc rien dans le non-dit et le non-verbal de ses parents ne l'aide à comprendre son expérience singulière. Donc il est sans repères et sans mots. Et donc, comme il est sans mots, il ne va pas pouvoir nommer ce qu'il vit. Et ça va mettre très longtemps. C'est parfois avec d'autres copains ou avec la communauté gay qu'il va pouvoir se reconnaître. Et donc, cette expérience de solitude est douloureuse. Et la deuxième expérience, c'est l'expérience de la honte. L'expérience de la honte qui va renforcer ce sentiment de solitude. Et l'expérience de la honte, c'est quoi? C'est le regard de l'autre qui met dans un état d'infériorité et d'indignité, c'est-à-dire tu n'es pas digne d'être comme nous, tu n'es pas comme nous, donc entre guillemets, tu n'as pas les mêmes droits à l'existence ou la même consistance d'existence que nous. Et face à ça, l'enfant ou le jeune ou voilà l'adulte vit de l'impuissance à dire non. Non, je suis un être humain. Et donc, ce vécu d'impuissance met dans la honte et rapetisse, on dit bien, je voudrais rentrer 6 pieds sous terre, je voudrais raser les murs. C'est-à-dire, il y a comme un effacement du jeu et donc un moins. Et ce sentiment d'infériorité dans lequel je suis mis et d'impuissance à réagir me met dans la honte et renforce la sensation d'isolement. Et la personne homosexuelle va devoir surmonter ça. Et puis la deuxième chose, c'est ce sentiment psychique de fragmentation qui est après, parfois c'est plus tard, c'est-à-dire je peux dire à mes parents, parce que mes parents sont aimants, acceptants, je suis homosexuel, mais à mon boulot, je ne vais pas le dire. Donc pour mes parents, je suis homosexuel, pour mon bureau, je suis célibataire, pour ma grand-mère, je suis célibataire, pour certaines autres personnes, tiens, peut-être je pourrais être homo, parce qu'il y aurait des signes, etc. Donc, en fait, la personne ne vit pas avec une identité constante dans toutes les sphères de sa vie. Et ce besoin d'unité qu'on a tous, d'être soi-même et toujours le même dans tous les espaces de notre vie, ce sentiment d'unité que l'on vit, donc d'équilibre psychique, la personne homosexuelle peut, ça dépend des milieux, ça dépend des personnes, hein. Il y a des personnes homosexuelles qui vivent très bien, très heureuses et qui ne vivent pas tous ces processus difficiles, mais pour certains, ça peut être difficile de les dépasser. Boom, boom, boom. Même les Américains comprennent.
Qu'importe l'endroit, le contexte, on a toujours un bon prétexte pour tomber nos foot of the loom. Quand toi et moi on fait boum boum boum, quand t'es pas là je fais n'importe quoi, je prends les kilos des tequila,
Je chante des chansons d'Oum Kalsoum, je ne pense qu'à nos
boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir, pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Failli tomber par terre en entrant dans le dressing room. Quand toi et moi on faisait boum boum boum. Dans des ascenseurs des hôtels, on s'est monté au 7e ciel. On en voit balader les grooms. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir, pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Soit des invités, on ne sait même pas résister. Entre le deal et le coup, il y a le temps de faire boum boum boum. C'est vrai que les murs ont des oreilles, que tous les voisins se réveillent. Mais c'est comme ça qu'on fait l'amour, quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. On ne voit pas besoin. Ça fait toujours deux. De plus de ça fait tout ce qu'on veut. C'est comme les coups de Brahim Asloum. Toi plus moi ça fait boum boum boum. Pas la peine d'aller cavaler, y'a que ça qui me fait voyager. Pas les cocotiers de Touloum. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir, pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. C'est mais comme ça c'est pas.
Diocésaine, 11h, 11h30, un magazine proposé par le service communication du diocèse de Metz.
Christine Martin.
Yolande Dufayet de la Tour, donc vous étiez intervenante principale à cette journée de rencontre autour de l'homosexualité et de la transsexualité. Et dans votre intervention, vous avez parlé du processus d'acceptation comme devant traverser les étapes d'un deuil.
Alors oui, c'est de prendre conscience que les personnes homosexuelles vivent ce processus de deuil et les parents vont vivre aussi ce processus de deuil. La difficulté de communication entre les parents et les enfants dans la société, c'est souvent le décalage. Chacun en a son processus de deuil à faire, d'une manière ou d'une autre, et on va être en décalage. Alors oui, il y a l'effet qu'on connaît, le choc de l'annonce ou de la découverte. Chez le jeune, je suis homosexuel et la découverte pour les parents, j'ai un enfant homosexuel. Puis le truc de sidération, donc de déni, non, j'ai pas envie, non, c'est pas possible, ça n'existe pas, on n'en parle plus. Mon enfant m'a annoncé, mais j'en parle plus. Ou la personne homosexuelle sent qu'elle est homosexuelle, mais vit outrageusement parfois comme une personne hétérosexuelle. Puis quand le processus commence à se fissurer, il va falloir regarder et plein de sentiments comme la colère, l'impuissance, l'injustice, la tristesse, le dégoût, selon chacun, va émerger à la fois chez les personnes et à la fois chez les parents. Il va falloir vivre avec tous ces sentiments mêlés. Et puis, va arriver le moment où il faut faire effectivement face à la réalité, sortir de tout ça. Donc, le problème du marchandage, c'est-à-dire, oui, moi, j'ai rien contre les homosexuels, mais pas mon fils ou pas ma fille. Il va falloir, oui, mon fils ou ma fille est homosexuel et lesbienne, mais je ne veux pas voir son conjoint. Donc ça, on est dans le marchandage, c'est-à-dire, j'accepte une partie, mais je n'accepte pas une autre partie. Donc, il y a ce processus qui va être mis en... Bon, puis on va le dépasser à un moment donné. On va se dire, non, mais c'est possible, je peux accueillir ton conjoint, je peux le dire à ta grand-mère, je vais le dire à mes collègues, je vais le dire dans ma paroisse, ou je vais m'afficher comme gay dans ma paroisse. C'est-à-dire que le « je » que je vais rendre public va, à un moment donné, dépasser cette mise en honte ou cette mise en écart que je vis ou dans lequel je me suis mis ou dans lequel on m'a mis, pour vivre de manière ouverte et construire un jeu, construire une identité, une solidité identitaire, passe par le regard de l'autre et l'insertion dans des communautés, dans des appartenances. Donc le regard de l'autre va m'aider à me construire psychiquement, à me renforcer et puis à donner le meilleur de moi-même et à être humain parmi les autres. Donc c'est très important ce moment du coming out.
Vous parliez en particulier dans les différents sentiments, émotions qu'on traverse dans ce processus, d'un sentiment particulier, celui de la honte. Et peut-être que dans les échanges qu'il y avait durant cette journée de travail, il y a plusieurs personnes qui disaient que ce sentiment peut être encore plus fort quand on l'envisage en église. Pourquoi cela ?
Ah, alors, si vous me demandez mon avis, moi très personnellement, sans vouloir... attaquer de manière frontale, mais malgré tout, je me suis penchée sur les textes, hein, donc ce qui a été écrit, et ce qui est écrit un peu, quelque part, il y a quelque chose qui est figé, un peu gravé dans le marbre, quand on relit tous les textes de l'Église, notamment de la commission de la doctrine de la foi, je ne sais plus très bien comment on dit, elle a produit de textes violemment homophobes. Enfin, quand on les relit avec les évolutions sociétales d'aujourd'hui, on voit comment l'Église peut produire un discours extrêmement homophobe. Je ne dis pas que toutes les personnes en Église sont homophobes, mais elle a produit un discours écrit et qui participe aussi aux idées, aux représentations, aux stéréotypes qu'on a sur l'homosexualité, qui la fait voir soit comme une perversion, voire comme un péché. Il y a encore des prêtres qui nomme un péché d'homosexualité avec des sessions de guérison et des choses comme ça, alors qu'en fait on sait que c'est un donné, c'est pas quelque chose qu'on choisit. La personne homosexuelle, après, elle peut, comme toute personne, exercer sa liberté, choisir de vivre et de poser des actes qui va mettre en jeu sa liberté. Donc on ne choisit pas d'être homosexuel, mais on choisit d'être homosexuel comme ceci ou comme cela. Et là, il y a du choix. On fait de sa vie quelque chose avec ce qui nous a été donné, comme bon, peut-être j'ai une infirmité, peut-être je suis blond plutôt que brune, je suis petit ou plutôt que grand, je suis plutôt intellectuel ou plutôt manuel. Donc en fait, ce sont des données et on fait tous avec des données.
Et vous parliez du coming out, alors peut-être certains auditeurs ne savent pas à quoi vous faites référence, qu'est-ce que c'est et en quoi c'est important dans ce processus. Vous avez dit plusieurs fois qu'il y a comme un basculement, il y a comme un déclic qui se fait au moment où la personne homosexuelle dit, raconte.
Alors le coming out, ça veut dire sortir, ça veut dire sortir du placard, hein. C'est le fameux, ça vient d'une expression anglaise, c'est ce qui a été utilisé, on l'utilise maintenant... On pourrait dire, si on devait traduire un mot français, une forme de dévoilement. Donc je dis quelque chose de moi, je sors de l'ombre et je sors d'une forme de mensonge en fait. Parce que ce dont on se rend compte, et je le dis en direction des personnes hétérosexuelles, c'est que malgré elles préjugent toujours que les personnes qu'elles rencontrent sont hétérosexuelles. Parce que l'homosexualité, les personnes homosexuelles, c'est un phénomène minoritaire, en tout cas elles sont en minorité, même si elles sont plus que 10%, ça reste malgré tout une minorité. On est dans une société qui est, on s'en rend plus, même plus compte, hétéronormée. Donc la personne homosexuelle, pardon, est obligée de rappeler « Non, je ne suis pas celle que tu crois ». Alors, en fait, c'est ça qui est très difficile à accueillir, parce que des personnes hétérosexuelles disent « Mais pourquoi elles revendiquent ? Moi, je ne dis pas que je suis hétérosexuelle. Ben, » Non, tu n'as pas besoin de le dire. Puisque c'est un présupposé totalement inconscient. Donc le besoin de dire, c'est surtout le besoin de sortir du mensonge, une forme de non-authenticité. J'ai besoin de dire que je ne suis pas tout à fait celui que tu imagines. Alors ça nécessite que je parle de ma sexualité, ce n'est pas très habituel, mais c'est vrai qu'à cet endroit-là, qui j'aime, comment je l'aime et comment j'aime avec mon corps, bah oui, c'est différent de ce que tu imagines. Donc en fait, j'ai besoin que tu saches que je ne suis pas tout à fait comme tu l'imagines. Et on a tous besoin d'être vu par l'autre dans sa vérité et dans son intégrité.
Et vous disiez, quand on dévoile cette part de son identité, il y a quelquefois des surprises, des personnes auxquelles on ne s'attendrait pas et qui sont bienveillantes, et des personnes qu'on imagine accueillantes et qui en fait se ferment pour plein de raisons, mais qui font que ce dévoilement est compliqué.
Oui. Ça fait partie de l'expérience humaine, c'est-à-dire entre le discours que j'ai sur les choses et ce que je vais vraiment faire. Hein, c'est pareil sur des sujets comme la mort, la fin de vie, je ne sais pas quoi, les études des enfants, etc. On se dit, ah ben oui, moi je m'en fiche, il fera les études qu'il voudra. Et puis, ah ben non, il fait un CAP, ah non, je pensais qu'il ferait un bac. Donc, en fait, entre le discours, ce que l'on affirme être soi, parfois, il y a un décalage quand on vit l'expérience elle-même et on se rend compte qu'en fait, tout d'un coup, il y a des freins ou il y a des impossibles qu'on n'avait pas nommés, qu'on n'avait pas été capable de voir. Donc, l'homosexualité peut être l'occasion de dévoiler, de faire se dévoiler des parts de soi et de l'autre qu'on n'imaginait pas. Donc, des personnes ouvertement gay-friendly, pour tous les autres, ça va devenir problématique si c'est à la maison, c'est-à-dire... Pas de problème avec l'homosexualité, entre guillemets, en général, étant que c'est chez les autres, mais pas chez moi.
En théorie, ça va, mais en pratique chez moi, c'est plus compliqué.
Ou inversement, des gens qu'on a projetés, coincés, par exemple, dans leur bigoterie, dans leur religiosité, dans leurs principes de vie traditionnels, etc. Souvent, c'est le cas des personnes âgées, c'est ce que je disais tout à l'heure. Eh bien, en fait, elles n'ont plus d'enjeux narcissiques et d'enjeux d'estime de soi, de problèmes de regard de l'autre. Ce qui leur importe, c'est par exemple l'amour de leurs petits-enfants et leurs petites-filles. Et en fait, qu'ils soient homosexuels, hétérosexuels, n'a plus aucune importance parce que ce qu'ils voient, c'est la personne, le lien qu'ils ont. Donc, en fait, on se rend compte que même des personnes âgées qu'on avait cru incapables d'assimiler cette singularité-là le font avec beaucoup de facilité et de bienveillance. Donc oui, il y a des surprises dans les deux sens.
Et alors, quelles sont peut-être, pour conclure cet entretien, quelles sont peut-être les recommandations ou les conditions pour qu'un dialogue plus serein puisse se créer et que les personnes homosexuelles puissent assumer cette part de leur identité plus facilement dans les réseaux ou les milieux de vie dans lesquels sont nos éditeurs?
Déjà, c'est d'en parler.
De briser
c'est d'en
le
parler,
tabou.
De briser le tabou, de leur donner la possibilité de prendre la parole. Par exemple, comme on le vit dans cette journée, elles sont là et elles peuvent prendre la parole et expliquer ce qu'elles vivent et qu'on peut les écouter. Donc, plus on écoute, en fait, de personnes, pas une idée ni un concept qui s'appelle l'homosexualité, mais quand on écoute des personnes homosexuelles, on découvre des personnes avec des expériences singulières. Donc, on casse nos clichés, nos représentations, nos stéréotypes, et du coup, on vit quelque chose d'humain, d'une personne à une autre personne. Donc, l'information, c'est très important. Le dialogue, c'est-à-dire mélanger des personnes homosexuelles, des personnes hétérosexuelles, dans tous les milieux, par exemple dans l'église, leur donner des moments où elles peuvent parler en tant qu'elles sont singulières, dans leur expérience, dans leurs attentes, dans leurs demandes, dans leurs droits, dans ce qu'elles vivent socialement, ce qu'elles vivent spirituellement. Donc ça, c'est très important. Le dialogue entre les parents, ça commence le dialogue entre les parents et les enfants. Et j'ai envie de revenir sur un basique, c'est-à-dire c'est d'arrêter de penser l'homosexualité comme un moins et comme un raté de l'hétérosexualité. À partir du moment où on considère que c'est quelque chose qui est donné et qui est quelque chose à regarder comme quelque chose de singulier, les tabous tombent, les stéréotypes tombent et on peut se rencontrer, on peut dialoguer et le vivre ensemble est possible.
Et puis vous disiez en particulier... pour vraiment, même si l'Église a de plus en plus de discours sur l'acceptation des homosexuels dans les communautés, dans la vie communautaire religieuse, on saura que c'est vraiment le cas le jour où on assumera de prier pour les homosexuels et les difficultés qu'ils rencontrent, de la même façon qu'on peut prier pour les personnes en précarité financière ou pour toute personne rencontrant une difficulté.
Oui, oui. Alors, pour connaître un petit peu quand même le milieu ecclésial que je suis amenée à découvrir au travers de mes conférences et un peu mes pérégrinations dans toute la France, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il semblerait qu'à peu près plus d'un tiers des diocèses ont ouvert des espaces particuliers où ce dialogue est possible. Donc, c'est plutôt une source d'espérance et de joie. C'est vrai que comment dire, tout ce qui peut être fait. Alors, c'est toujours difficile de parler d'inclusion, parce qu'à partir du moment où on dit inclusion, ça voudrait dire qu'il y a de l'exclusion. Donc, on aura fait notre job quand on ne parlera plus d'inclusion, d'une certaine manière, ça ne sera plus un sujet. Mais c'est important que ça reste quand même un sujet, c'est-à-dire c'est quelque chose de singulier qui nous apprend quelque chose. Alors moi, hétérosexuelle qui n'ai pas choisi de l'être, j'apprends beaucoup au contact des personnes homosexuelles. Et finalement, c'est ça l'altérité, la relation avec un autre. C'est une chance pour les hétérosexuels d'avoir des homosexuels, parce qu'ils vont leur ouvrir, ces personnes homosexuelles vont nous ouvrir des manières d'être, de vivre, de sentir, d'aimer, qui sont très différentes et qui sont très riches. Moi, je suis vraiment pleine de gratitude pour tous mes collègues et mes amis homosexuels qui ont fait la femme hétérosexuelle que je suis aujourd'hui grâce à leur expérience.
Eh bien, merci beaucoup de votre témoignage et de votre venue à Metz aujourd'hui pour nous ouvrir peut-être un peu plus l'esprit.
En tout cas, merci à Metz et à toute cette communauté de m'avoir accueillie. Et je trouve formidable qu'il y ait cette envie de pont entre les uns et les autres qui existe. Je souhaite que beaucoup d'autres diocèses et beaucoup d'autres pastorales ouvre des espaces comme ça de dialogue. Merci à vous.
Merci à Yolande Dufayet de la Tour de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission que vous pourrez retrouver en podcast sur rcf.fr ou sur l'application de votre téléphone portable. Je passe maintenant le relais à Romane Feocchio pour un très bon Midi Moselle qu'il vous a préparé comme d'habitude dans la joie et la bonne humeur. Belle journée à chacun et chacune de vous.